Aristote, Politique, livre 6, chapitre 10. Sommaire. Principes généraux applicables à ces diverses espèces de gouvernement. Qualité et quantité des citoyens jouissant des droits politiques. Il est nécessaire de combiner avec équité les divers éléments de l'État et de leur faire à chacun leur part. Ruse de l'oligarchie. Ruse contraire de la démocratie. Règles à suivre envers les pauvres. Considérations historiques. Importance toujours croissante de l'infanterie tirée des rangs du peuple. Paragraphe 1. Passons à une question qui tient de bien près à toutes celles-là. C'est celle de l'espèce et de la nature du gouvernement selon les peuples à gouverner. Un premier principe général s'applique à tous les gouvernements. Toujours, la portion de la cité qui veut le maintien des institutions doit être plus forte que celle qui en veut le renversement. Dans tout État, il faut distinguer deux objets, la quantité et la qualité des citoyens. Par qualité, j'entends la liberté, la richesse, les lumières, la naissance. Par quantité, j'entends la prépondérance numérique. Paragraphe 2. La qualité peut appartenir à telle portion des éléments politiques et la quantité se trouver dans telle autre. Ainsi, les gens sans naissance peuvent être plus nombreux que ceux de naissance illustre, les pauvres plus nombreux que les riches, sans toutefois que la supériorité du nombre puisse compenser la différence en qualité. Aussi doit-on tenir bien compte de ces rapports proportionnels. Partout où même ce rapport étant gardé, la multitude des pauvres a la supériorité, la démocratie s'établit naturellement avec toutes ses combinaisons diverses suivant l'importance relative de chaque partie du peuple. Par exemple, si les laboureurs sont les plus nombreux, c'est la première de toutes les démocraties. Si les artisans et les mercenaires sont en plus grand nombre, c'est la dernière. Les autres espèces se classent également entre ces deux extrêmes. Paragraphe 3. Partout où la classe riche et distinguée l'emporte plus en qualité qu'elle ne le cède en nombre. L'oligarchie se constitue de la même manière, avec toutes ses nuances, selon la tendance particulière de la masse oligarchique qui l'emporte. Mais le législateur ne doit jamais avoir en vue que la moyenne propriété. S'il fait des lois oligarchiques, c'est à elle qu'il doit penser. S'il fait des lois démocratiques, c'est encore elle qu'il doit ranger à ses lois. Paragraphe 4. La Constitution n'est solide que là où la classe moyenne l'emporte en nombre sur les deux classes extrêmes, ou du moins sur chacune d'elles. Les riches n'ourdiront jamais contre elles de complots bien redoutables de concert avec les pauvres, car, riches et pauvres, redoutent également le joug qu'ils s'imposeraient mutuellement. Que s'ils veulent un pouvoir d'intérêt général, ils ne pourront le trouver que dans la classe moyenne. La défiance réciproque qu'ils ont entre eux les empêchera toujours de s'arrêter à un pouvoir alternatif. On ne se fie jamais qu'à un arbitre, et l'arbitre ici, c'est la classe intermédiaire. Plus la combinaison politique qui forme l'État est parfaite, plus la Constitution a des chances de durer. Paragraphe 5. Presque tous les législateurs, même ceux qui ont voulu fonder des gouvernements aristocratiques, ont commis deux erreurs à peu près égales. D'abord, en accordant trop aux riches, puis en trompant les classes inférieures. Avec le temps nécessairement, il sort toujours d'un faux bien un mal véritable, car l'ambition des riches a ruiné plus d'États que l'ambition des pauvres. Paragraphe 6. Les artifices spécieux dont on prétend leurrer le peuple en politique s'appliquent à 5 objets. L'Assemblée générale, les magistratures, les tribunaux, la possession des armes et les exercices du gymnase. Pour l'Assemblée générale, on donne à tous les citoyens le droit d'y assister, mais on a soin d'imposer aux riches une amende s'ils ne s'y rendent pas. Et cette amende ne s'applique qu'à eux seuls, ou du moins, elle est beaucoup plus forte contre eux que contre les pauvres. Pour les magistratures, on interdit aux riches qui ont le sens la faculté de les refuser, et on la laisse aux pauvres. Pour les tribunaux, on prononce une amende contre les riches qui s'abstiennent de juger, et on accorde l'impunité aux pauvres. Ou bien, l'amende est énorme pour ceux-là et n'est presque rien pour ceux-ci, comme dans les lois de Carondas. Paragraphe 7. Quelquefois, il suffit d'avoir été inscrit sur les registres civiques pour avoir entré à l'Assemblée générale et au tribunal. Mais une fois inscrit, si l'on manque à ces deux devoirs, on est passible d'une amende effrayante. Elle a pour but de faire qu'on s'abstienne de ça. Et comme l'on n'est pas inscrit, l'on ne fait alors partie ni du tribunal ni de l'Assemblée. Même système de loi pour la possession des armes, pour les exercices gymnastiques. On permet aux pauvres de n'être point armés. On punit d'une amende les riches qui ne le sont pas. Pour les gymnases, point d'amende contre les pauvres, amende contre les riches qui ne s'y rendent point. Ceux-ci y vont, crainte de l'amende. Les autres n'y paraissent jamais, parce qu'ils n'ont point à la redouter. Telles sont les ruses mises en usage par les lois dans les constitutions oligarchiques. Paragraphe 8. Dans les démocraties, le système de ruse est tout à fait opposé. Indemnité aux pauvres qui assistent au tribunal et à l'Assemblée générale. Impunité pour les riches qui n'y vont pas. Pour que la combinaison politique soit équitable, il faut évidemment emprunter quelque chose aux deux systèmes contraires. Salaire pour les pauvres et amende pour les riches. Tous alors, sans exception, prennent part aux affaires de l'État. Autrement, le gouvernement n'appartient jamais qu'aux uns à l'exclusion des autres. Le corps politique ne doit être composé que de citoyens armés. Quant au sens, il n'est guère possible d'en fixer la quotité d'une manière absolue et invariable. Mais il faut lui donner la base la plus large qu'il puisse recevoir, pour que le nombre de ceux qui ont part au gouvernement dépasse le nombre de ceux qui en sont exclus. Paragraphe 9. Les pauvres, même quand on leur refuse l'honneur des fonctions publiques, ne réclament pas et restent tranquilles, pourvu qu'on ne vienne pas les outrager et les dépouiller du peu qu'ils possèdent. Cette équité envers les pauvres n'est pas, du reste, chose du tout facile, car les chefs du gouvernement ne sont pas toujours les plus doux des hommes. En temps de guerre, les pauvres, par suite de leur indigence, resteront dans l'inaction, à moins que l'État ne les nourrisse. Mais si l'on veut les entretenir, ils marcheront volontiers au combat. Paragraphe 10. Dans quelques États, il suffit non pas seulement de porter les armes, mais même de les avoir portées pour jouir du droit de cité. À Mali, le corps politique se compose de tous les guerriers, et l'on ne choisit les magistrats que parmi ceux qui font partie de l'armée. les premières républiques, qui, chez les Grecs, succédèrent aux royautés, n'étaient formées que de guerriers portant les armes. Dans l'origine même, tous les membres du gouvernement étaient des cavaliers, car la cavalerie faisait alors toute la force des armées et assurait le succès dans les combats. De fait, l'infanterie, quand elle est sans discipline, est de peu de secours. Dans ces temps reculés, on ne connaissait point encore par expérience toute la puissance de la tactique pour les fantassins et l'on plaçait toutes ses ressources dans la cavalerie. Paragraphe 11. Mais à mesure que les États s'étendirent et que l'infanterie prit plus d'importance, le nombre des hommes jouissant des droits politiques s'accrut dans une égale proportion. Aussi, nos ancêtres appelaient-ils démocratie ce que nous nommons aujourd'hui république. Ces anti-gouvernements étaient à vrai dire des oligarchies ou des royautés. Les hommes y étaient trop rares pour que la classe moyenne y fût considérable. Peu nombreux, et soumis d'ailleurs à un ordre sévère, ils savaient mieux supporter le joug de l'obéissance. Paragraphe 12. En résumé, nous avons vu pourquoi les constitutions sont si multiples, pourquoi il en existe encore d'autres que celles que nous avons nommées, la démocratie ainsi que le reste des gouvernements ayant beaucoup de nuances diverses. Nous avons ensuite étudié les différences de ces constitutions et les causes qui les amènent. Enfin, nous avons vu quelle était la forme politique la plus parfaite, à parler d'une manière générale, et quelle était la meilleure relativement aux peuples à constituer.